Jesus Christus.
Le message du pape François pour la prochaine journée mondiale de la paix est dévoilé ce jeudi. Le souverain pontife souhaite que l'année jubilaire qui s'ouvre dans quelques jours soit une année qui fasse croître la paix. Le pape qui plaide aussi pour l'annulation de la dette des pays les plus pauvres. Les détails sur ce message au début de ce journal. Alors que les autorités de transition en Syrie se mettent doucement en place, les pays d'Europe s'interrogent sur l'avenir des réfugiés syriens exilés au sein de l'Union européenne. C'est le cas notamment de l'Autriche qui a annoncé suspendre les procédures d'asile en cours. Reportage à suivre à Vienne. Dans ce journal également, les suites de la crise politique en Corée du Sud où le président Yoon résiste à la destitution. Et puis nous reviendrons aussi sur le discours à la nation du président congolais Félix Tshisekedi hier, qui ne cache pas ses ambitions de modifier la constitution pour briguer un troisième mandat.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, à l'occasion de la 58e journée mondiale de la paix, célébrée comme chaque année le 1er janvier, le message du pape François à cette occasion a été publié ce jeudi. Message dans lequel le Saint-Père se penche sur le thème du prochain jubilé, axé sur l'espérance, et réitère son appel pressant à la remise des dettes, nous rappelant que nous sommes tous débiteurs envers Dieu et envers les uns les autres. Le pape qui invite dans ce message aussi tout le monde à se mettre à l'écoute du cri de l'humanité pour briser les chaînes de l'injustice. Retour sur les grandes lignes de ce texte avec Augustine Asta.
En cette veille d'année jubilaire, le pape François invoque à nouveau la paix. Une paix vraie et durable. Dans le village global interconnecté qu'est le monde aujourd'hui, il est nécessaire, poursuit le souverain pontife, d'écouter le cri des pauvres et de l'humanité menacée. Car, précise-t-il, personne ne vient au monde pour être opprimé, puisque nous naissons pour être libres selon la volonté du Seigneur, affirme le pape. François dénonce donc les inégalités de toutes sortes qui affligent la planète, notamment le traitement inhumain infligé aux migrants, la dégradation de l'environnement, la confusion engendrée par la désinformation, le refus de tout dialogue et le financement de l'industrie militaire. Autant de facteurs, dit le pape, qui constituent une menace réelle pour l'existence de l'ensemble de l'humanité. C'est pourquoi l'évêque de Rome appelle à briser les chaînes de l'injustice pour ouvrir les chemins de l'espérance et proclamer la justice de Dieu. Pour donc remettre les peuples sur le chemin de l'espérance, François suggère trois actions concrètes. Trouver des formes de remise de la dette extérieure en reconnaissant la dette écologique entre le Nord et le Sud. Abolir la peine de mort dans toutes les nations. Et enfin, allouer les fonds non pas pour le financement des armes, mais afin de lutter contre la faim dans le monde.
Augustine Asta, le pape François qui a par ailleurs reçu ce matin au Vatican le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, un entretien d'une trentaine de minutes. Et selon un communiqué du Saint-Siège, le pape a souligné l'importante contribution de l'Église catholique à la société palestinienne, notamment ce qui concerne la situation humanitaire très grave à Gaza où l'on espère un cessez-le-feu, la libération de tous les otages le plus rapidement possible, peut-on lire. Le Saint-Père qui a aussi réitéré l'importance de parvenir à une solution à deux États en veillant à ce que Jérusalem, protégée par un statut spécial, puisse être, je cite, un lieu de rencontre et d'amitié entre les trois grandes religions monothéistes. La Syrie post-Bachar al-Assad continue de se mettre en place et le nouveau pouvoir de transition fait ses premiers pas très surveillé par la communauté internationale. Ahmed al-Shara, chef du mouvement islamiste HTC, nouvel homme fort du pays, a annoncé ce matin la dissolution prochaine des services de sécurité du pays. Les prisons de l'ancien régime devraient également fermer leurs portes, des prisons qui sont le symbole de la terreur institutionnalisée sous l'ancien régime syrien. La Syrie où la question d'un retour des réfugiés se pose déjà dans les pays européens. En particulier, l'Autriche a annoncé en début de semaine suspendre les procédures d'asile en cours de citoyens syriens et annoncé vouloir examiner le cas de ceux qui ont obtenu l'asile ces cinq dernières années. Cela concerne 40 000 dossiers, de quoi susciter l'inquiétude en Autriche où plus de 95 000 Syriens vivent actuellement. À Vienne, le reportage d'Isorias.
Originaire de Homs, Abdulkim al-Shater a participé à plusieurs manifestations anti-Assad en Syrie avant de devoir fuir son pays pour gagner l'Autriche, où il a obtenu l'asile en 2015. Aujourd'hui, cet homme de 43 ans se dit choqué par l'annonce du gouvernement de vouloir suspendre les procédures d'asile en cours et de réexaminer le cas des Syriens ayant obtenu l'asile ces 5 dernières années.
Beaucoup de Syriens sont bien intégrés ici, ils travaillent ici. J'ai moi-même 2 filles qui sont nées en Autriche, elles ne savent même pas lire l'arabe. Et cette annonce arrive trop tôt. La Syrie n'est pas encore sûre, pas encore stable. Je trouve ça inhumain d'annoncer cela. Les gens sont aujourd'hui désespérés et en colère.
Pour Lukas Galleitner-Gertz de l'ONG Asyl Coordination, cette annonce du gouvernement autrichien est davantage politique que réaliste.
S'il y a un moment, on peut dire la situation en Syrie s'est stabilisée, alors il pourrait y avoir des procédures de retrait du statut de protection. Mais nous ne savons pas si cela va effectivement se produire. Tant qu'il n'y a pas de clarté à ce sujet, on ne peut pas dire qu'il y ait une réelle chance de voir un statut retiré. Ces annonces sont donc prématurées et trompent la population sur la situation réelle.
Abdulkim al-Shater affirme quant à lui qu'il rentrera en Syrie quand la démocratie sera assurée.
Isorias, notre correspondante en Autriche, et une réunion des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne doit se tenir cet après-midi à Bruxelles sur la question de l'accueil des Syriens en Europe. 8 ambassades ont, elles, repris leurs activités à Damas, l'Égypte, l'Irak, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, la Jordanie, Bahreïn, Oman et l'Italie. Les autorités de transition saluent ces pays. De son côté, les pays du G7 se disent prêts à soutenir la transition en Syrie, appelant, je cite, à une gouvernance crédible, inclusive et qui rejette le sectarisme. Une nouvelle saluée comme une décision historique à Bucarest comme à Sofia, l'Union européenne a donné son feu vert aujourd'hui pour une intégration de la Roumanie et de la Bulgarie à l'espace Schengen. À partir du 1er janvier, les deux pays d'Europe centrale rejoindront donc officiellement cet espace de libre circulation. Partons en Corée du Sud où la crise politique continue après l'annonce puis le retrait de la loi martiale la semaine dernière. Le président Yoon était visé par une motion de destitution qui a échoué samedi dernier, mais il reste dans le viseur de la justice. Et c'est tout le gouvernement sud-coréen qui tente de sauver sa peau après ce coup d'État raté. La correspondance à Séoul de Clément Le Breton.
Interdit de sortie du territoire et suspect numéro 1 dans la tentative de coup d'État du 3 décembre en Corée du Sud, le président Yoon Suk-yeol est dans le viseur de la justice. S'il a réchappé de peu à la destitution, sauvé par son parti, il pourrait finir ses jours en prison. Hier, la police a tenté de perquisitionner le bureau présidentiel, mais a été empêchée par les services de protection du chef d'État qui n'ont pas laissé les agents entrer malgré leur mandat. Du côté du gouvernement, l'ancien ministre de la Défense, qui avait démissionné après l'échec du coup de force militaire, a été arrêté en début de semaine. En détention provisoire, il a tenté hier matin de mettre fin à ses jours avant que les autorités n'interviennent. Sa vie n'est plus en danger. L'étau se resserre donc autour du président et son entourage à mesure que l'enquête avance. Le parquet responsable des enquêtes sur la fonction publique a indiqué qu'il procéderait à l'arrestation du président si les preuves sont suffisantes. Clément Le Breton, Séoul, Radio Vatican.
Une bonne nouvelle des États-Unis, le président américain Joe Biden, qui s'apprête à passer la main à Donald Trump le 20 janvier, a décidé de commuer la peine de mort de 1500 détenus et il annonçait également 39 grâces. C'était notamment l'une des demandes de l'Église catholique américaine. En RDC, le président Félix Tshisekedi a prononcé hier son traditionnel discours sur l'état de la nation, confirmant son projet de vouloir changer la constitution alors que l'opposition le soupçonne de vouloir briguer un troisième mandat. À Kinshasa, Pascal Moulégois.
Route, pont, école, hôpitaux et aéroports, la RDC est en chantier, confirme le chef de l'État congolais, vantant notamment une croissance de 6% cette année au-delà de la moyenne africaine. Ce n'est qu'à la fin de son discours de près de 2 heures que le président Félix Tshisekedi abordait les sujets où beaucoup l'attendaient, celui de la révision de la Constitution. En revenant sur le démarrage raté de sa mandature en raison des retards pour la mise en place des institutions politiques, le président Tshisekedi a évoqué des délais contraignants prévus dans l'actuelle loi fondamentale et estime que cette situation nous invite, précise-t-il, à une réflexion commune. Une démarche, selon lui, qui consiste, précise-t-il, uniquement à construire un cadre constitutionnel plus adapté aux considérations de notre peuple. Pour l'opposition, le président pourrait précipiter sa chute. Le peuple a demeuré pendant 6 ans dans la pauvreté, le chômage, la corruption, les mensonges d'État, les détournements et l'insécurité, croit savoir Prince Epengé, le porte-parole de Lamuka, l'une des principales coalitions de l'opposition. Pascal Moulégois, Kinshasa, RFI pour Radio Vatican.
Et puis au Mali, Human Rights Watch dénonce des atrocités commises contre les civils par l'armée malienne, son allié russe Wagner, ainsi que par les troupes armées islamistes. Des exactions, souligne l'ONG, qui ont eu lieu après le départ de la MINUSMA, la mission de l'ONU dans le pays. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information sur nos ondes, ce sera à 18h en direct de Rome. Je vous souhaite une excellente après-midi.